Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence téléphonique de présentation des résultats du troisième trimestre 2018 de l'ISI. Je laisse à présent la parole à Monsieur Emmanuel Viella, directeur général de l'ISI. Monsieur, c'est à vous.
Merci, bonsoir à tous et je suis très heureux de vous accueillir pour cette présentation donc de l'activité du troisième trimestre de notre exercice qui présente donc un chiffre d'affaires cumulé à 1,2 milliard d'euros. Et lorsque nous allons à la première slide, nous voyons que nous avons un chiffre d'affaires du T3 qui s'établit à 386 millions d'euros, qui se compare par rapport au T3 2017 de 370 millions d'euros, donc en progression de 4,5%. Il est évident que la contribution de Thermax qui bénéficie sur ce trimestre qui n'était pas présent l'an dernier, nous ramène à un taux de croissance organique sur le trimestre de moins 1%, alors que nous étions dans des taux de baisse plus importants sur les trimestres précédents, principalement liés à l'aéronautique. Alors, les points essentiels à retenir de ce trimestre qui est dans la partie aéronautique, on touche un point bas, vous l'avez bien traduit de la part de nos commentaires de l'activité, avec quelques signes encourageants de redémarrage sur certains sujets, certains programmes, des petits segments, mais néanmoins qui étaient pas mal déprimés, notamment aux États-Unis. Aujourd'hui, on sent des frémissements et des retours, notamment via les distributeurs. En revanche, ce qui a affecté beaucoup l'activité du trimestre, c'est le recul soudain, le coup de frein brutal ressenti dans le secteur automobile. Alors, on n'est pas les seuls, ce n'est pas l'exception. Au contraire, c'est un phénomène général. Nous avons un impact fort chez les clients constructeurs automobiles, hein, de l'entrée en vigueur des nouvelles normes. Vous en avez tous entendu parler, norme Euro 6, WLTP, et également d'un recul sensible en Chine. Nous avons en revanche bénéficié d'une forte... un fort impact positif de la société Thermax qui se confirme comme étant une très bonne acquisition à ce stade. Et enfin, l'ISI Médical qui présente un rebond. Donc les trois éléments confondus nous donnent un léger rebond d'activité sur le trimestre, plus 4,5%. Et lorsque nous allons ensuite par activité, donc je commencerai par l'activité aéronautique. L'activité aéronautique, le chiffre d'affaires s'établit à 221 millions, qui se compare à 223 millions sur l'exercice précédent. Donc, un léger tassement, moins 0,6, alors qu'on était plutôt sur une baisse de moins 15, moins 10 sur les trimestres précédents. Donc, on a ce phénomène de point bas. Effectivement, on a une base de comparaison de l'an dernier qui est plus acceptable. Alors, quand on regarde un peu plus en détail les chiffres, on voit un rebond qui se confirme aux États-Unis. On voit l'Europe qui baisse moins et on voit l'activité structurelle qui est toujours assez dynamique. Ce rythme soutenu des montées en cadence des nouveaux programmes est surtout sensible dans la partie structurelle, concentré sur les bords d'attaque du LIP, les bras et OGV, toujours sur ce même moteur, ainsi que les aubes. Donc, sur ces trois sujets, seule cette dernière ligne de produits, les aubes, hein, nous pose encore quelques soucis d'exécution avec les derniers réglages de notre usine polonaise. Nous avons des signes encourageants de redémarrage dans certains segments qui pourraient permettre à Forge Integrated Solutions, l'activité ex-manoir, d'afficher de meilleures performances. Par ailleurs, nous pouvons noter également le lancement des productions à partir de notre base mexicaine hein, qui vont aider sur le moteur LIP, notamment la version LIP 1B destinée à Boeing. Lorsqu'on change de panorama et d'activité et que nous allons maintenant dans le secteur automobile, nous sentons dans cette activité une forte volatilité. Nous avons eu des livraisons chez les clients très importantes sur les mois de juin et juillet, ainsi que des immatriculations on va dire en blanc, au mois d'août, avant l'application des normes beaucoup plus strictes sur notamment les mesures de la pollution. Ce qui fait qu'il y a certains modèles, certains moteurs qui ne passent pas les tests, et donc les constructeurs ont choisi de les immatriculer, ce qui fait que la production qui, elle, devance les immatriculations de plus d'un mois, eh bien, a fortement été freinée sur la période. Par ailleurs, on note des très très forts également mouvements dans les immatriculations, avec une baisse brutale des immatriculations, notamment en diesel, sur l'Europe occidentale. Un chiffre à vous donner, les immatriculations en diesel destinées aux particuliers hors flotte s'établissaient à moins de 30% hein, sur le mois de septembre. Donc beaucoup d'ajustements chez les constructeurs. Il faut noter que les plus fortes baisses concernent Volkswagen et Renault, bien entendu deux clients importants qui concernent le business group des fixations vissées. Alors les fixations vissées sont bien entendu les plus touchées sur la période, ainsi que dans une moindre mesure la partie clipée, légère baisse. Par contre, on est toujours très positif dans la partie BGSMC en termes d'activité, donc qui tient solidement ses positions. Par ailleurs, il faut noter que dans le secteur automobile, à date, nous avons pris 60 millions de nouveaux projets en chiffre d'affaires annualisé à développer dans les deux prochaines années, qui viendront bien sûr nourrir la croissance à venir. Donc ça, c'est bon pour la partie perspective. Concernant Thermax, nous avons une contribution très significative avec un bon fonctionnement et des premières synergies. Nous avons vendu 650 000 dollars de produits Lizzy via Thermax sur ce troisième trimestre. Par ailleurs, il faut noter que la dernière acquisition, iVol, n'a pas été intégrée dans ces chiffres. Il viendra contribuer sur le T4. Pour donner une ordre d'idée, on devrait avoir à peu près 9 millions d'euros de chiffre d'affaires en provenance de cette acquisition sur le T4. Voilà pour la partie auto. Si on se projette maintenant dans l'activité médicale, on note un rebond avec donc des nouveaux produits qui proviennent de l'usine de LMR à Minneapolis dans le segment de la chirurgie mini-invasive. On vous avait promis des développements de nouveaux produits, ils arrivent. On est encore simplement au début des montées en cadence. Nous sommes en attente des qualifications et accréditations des clients avant de poursuivre l'accélération qui se passe aujourd'hui normalement. Nous avons encore un sujet sur un produit important qui est bloqué par des problèmes de sous-traitance d'injection. C'est du overmolding c'est nous qui sommes maîtres d'œuvre sur l'opération avant de livrer le client. Les sous-traitants se doivent d'être homologués par le client, bien entendu, et c'est là où nous avons des sujets de rouleau d'étranglement, et ce produit pèse pour 1,5 million d'euros sur le trimestre. Vous voyez, donc c'est quand même un point important. Nous avons bon espoir de résoudre ce sujet pour le début 2019. Bonne tenue d'activité orthopédique, hors Stryker, qui est plutôt dans une phase de ralentissement. Par contre, on note une forte demande d'ancillaire et des nouveaux produits qui continuent à se développer à partir de l'usine de Caen dans ce secteur. Et puis, les deux usines exposées au secteur du spine fonctionnent au nominal. Donc, rien à dire sur ce sujet. Si on aborde le chapitre qui vous intéresse le plus, qui sont les perspectives et les tendances, on note un contexte conjoncturel toujours tendu à court terme, une situation toujours confuse sur la demande de fasteners, à quel niveau se situe la norme. On note avec satisfaction le rebond constaté aux États-Unis, et ceci hors Boeing, c'est plutôt les autres segments qui nous tirent, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Cet ajustement de la demande nécessite pour nous d'ajuster nos niveaux de production et nos niveaux de coûts, à la fois variables et fixes, et principalement dans cette activité fixation. La remontée des carnets de commandes aux États-Unis nous permet d'envisager un niveau d'activité pour l'exercice à venir tout à fait correct. Et dans l'activité composante qui nous permettrait de retrouver une activité un peu plus normale pour la partie Forge Integrated Solution, tandis que l'usine de Marmande, elle fonctionne bien sous la montée en puissance des nouveaux produits. L'accélération des livraisons LEAP avec un nouveau rebond attendu hein, pour la fin d'année est également un point notable. Donc on est toujours dans une période de montée en puissance et nous sommes félicités par notre principal client Safran pour ce sujet-là. On peut noter également la prise de commande des BA du J9X, qui est une bonne nouvelle pour la continuité de ce site et qui aura des effets notables sur la deuxième partie de l'exercice 2019. Dans la partie auto, l'impact qui s'est fait sentir du coup de frein brutal du T3 se prolongera au T4. Aujourd'hui, les prévisions et les demandes de livraison nous laissent penser que ces conditions de marché vont se prolonger parce que nos clients aujourd'hui sont affectés et n'ont pas toutes les solutions encore en main à ce stade. Ce qui fait que nous devons également adapter nos niveaux de capacité parce qu'on ne va pas faire du stock dans cette période. Au contraire, on en avait des stocks disponibles pour l'été qui n'ont pas diminué. Donc on se doit de diminuer les stocks sur le T3. Donc on va ajuster notre capacité de production encore plus fort que la demande afin de résoudre et de résorber une partie de ces stocks. Par ailleurs, nous devons également ajuster en termes de coûts fixes. La prise de commande des nouveaux produits, je vous ai dit tout à l'heure, est tout à fait bien orientée et nous laisse présager des développements intéressants pour les exercices à venir. On peut noter également l'intensification des synergies commerciales avec les sociétés nouvellement acquises et la contribution de Hyvol sur le T4 et bien entendu sur 2019. Dans le médical, l'accent est mis sur le respect des montées en cadence dans la phase d'industrialisation des nouveaux produits qui, bien entendu, vont aider une contribution plus significative de la part de LMR, mais également dans la partie orthopédie. Et on note également des perspectives plutôt molles avec Stryker où sur le dernier trimestre, on devrait ralentir. Donc des effets positifs, des effets négatifs. Ce qu'il faut en global retenir, c'est que cette volatilité qui est générée par les clients, des à-coups de conjoncture très forts, je vous rappelle que dans la partie automobile, nous avons pédalé avec des heures supplémentaires, des intérimaires pour pouvoir livrer les clients avec des demandes en forte hausse pour ensuite ralentir brutalement alors que ce n'était absolument pas prévu ni anticipé. De même, dans la partie aéronautique, vous voyez que suivant les lignes de produits, on est dans une phase de décélération, une phase d'accélération. Donc, il convient que nous travaillions la flexibilité au maximum pour absorber ces pics et tirer parti de ces périodes d'activité hautes lorsque nous sommes en phase de montée, pour dégager du résultat pour ensuite s'ajuster plus facilement. Alors, c'est facile à dire sur le terrain, dans la complexité de nos outils industriels, notre nombre de sites, c'est beaucoup plus complexe. Ça nécessite une agilité et de travailler cette volatilité, c'est absolument clé. Par ailleurs, la marge, si bien entendu, elle sera en recul comme annoncé. Le free cash flow, lui, sera largement positif et on le confirme. Il faut noter que dans le ralentissement de la marge, hein, une hausse significative des amortissements, sous l'effet de notre politique d'investissement élevée, hein, bien entendu, et toujours cette adaptation aux à-coups de conjoncture. Voilà les points essentiels que je voulais souligner à cette première partie, mais je pense que le point le plus important est de vous laisser la parole pour vos questions. Donc, mesdames,
Mesdames et
messieurs,
messieurs,
pardon,
pardon,
allez-y. Allez.
Merci. Merci. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez composer 01 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une première question de Christophe Ménard de Kepler-Chevreux. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir. J'avais deux questions à la base. La première, c'est sur la conjoncture automobile, sur à la fois le Q4 et sur 2019. Sur Q4, je comprends que vous allez ajuster à la baisse les stocks. Donc il y aura très vraisemblablement un impact marge assez marqué, mais la question c'est de savoir par rapport à votre guidance de free cash que vous n'avez pas quantifié pour 2018, mais est-ce que finalement votre guidance de free cash qui est largement positif, elle a baissé par rapport à ce que vous aviez envisagé au H1 ou vos ajustements capacitaires vont faire qu'elle reste stable? Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est sur 2019, sur l'automobile. Cette situation, elle risque de durer sur le H1 ou est-ce que vous avez une visibilité est-ce que c'est est-ce que c'est une situation pour le H1 ou pour l'année 2019 et on devrait avoir des ajustements sur toute l'année 2019. Et la toute dernière question, c'est sur iVol. J'ai le CAPEX relatif à l'acquisition, je présume que c'est sûrement un peu supérieur aux 40 millions de dollars que vous de vente que, de la société en 2017, mais si vous pouvez nous aider à le quantifier, et ainsi que l'impact sur l'année 2019, hein, sur les 9 premiers mois de l'année 2019.
Très bien, merci Christophe pour ces questions. Alors, tout d'abord, la conjoncture auto avec ce coup de frein brutal qui ne nous a pas permis d'ajuster les stocks sur la période. Le T3, comme il est de tradition, hein, puisque je vous rappelle qu'on monte en puissance dans le niveau de production sur le T2 pour passer l'été, pouvoir livrer les clients sans encombre, redémarrer septembre. Tranquillement et continuer à livrer sur septembre, de sorte que ensuite on embraye sur le T4. Là, il va falloir ralentir davantage la production par rapport au T4 avec un déstockage qui va s'élever à peu près à 7 millions d'euros sur ce T4 et c'est d'autant de production qui viennent couvrir les frais fixes. Ça veut dire qu'on ne peut pas ajuster d'autant les coûts. Mais nous avons choisi de privilégier le free cash flow. Donc c'est surtout l'apport de marge qui aurait dû se produire, qui ne va pas se produire. Donc globalement, il va y avoir une insuffisance de chiffre d'affaires et une insuffisance de production encore plus significative sur le S2, dans la partie auto. Et donc dans la partie auto, il faut s'attendre à un sérieux tassement de la marge sur le deuxième semestre. Ça, c'est notre choix et notre politique de gestion. Concernant 2019, est-ce que la situation va perdurer? Est-ce que le secteur automobile va se trouver durablement affecté par des normes une structuration du marché qui a beaucoup bougé. Alors vous avez vu que les constructeurs veulent prendre des mesures sur pas une mesure à la casse, mais en tous les cas une mesure pour recycler les voitures anciennes, pour avoir des voitures qui polluent moins. Je pense qu'il y a une vraie demande, il y a une vraie attente. On va vers une interdiction progressive des véhicules polluants dans les villes, et les gens vont continuer à avoir de la mobilité. Donc le marché va repartir, ça c'est clair. Moi, je suis petit équipementier avec une visibilité extrêmement courte, avec la possibilité des constructeurs d'adapter leur demande à 10 jours. Donc vous imaginez bien que c'est pas moi qui vais donner les grandes tendances du secteur. On se prépare sur un début d'exercice 2019 plutôt mou, suivant la bonne règle que on commence un exercice comme on a terminé l'exercice précédent. Donc, pour moi, j'attends pas un premier trimestre 2019 avec un rebond très significatif dans la partie auto. C'est pour ça que nous nous préparons à ajuster les capacités. Enfin, l'acquisition de iVol. Donc, iVol, on pense pouvoir apporter des synergies significatives. On va se servir de iVol pour développer la forge des ébauches des EPB qui sont terminés au Mexique ou qui seront terminés chez iVol. Nous avons également beaucoup de choses à apporter en termes d'organisation industrielle dans cette usine. Et également, nous avons des apports significatifs en termes qualité-produit. On a beaucoup de choses, beaucoup de synergies à valoriser. La société est rentable. Elle est un peu moins rentable que la moyenne du BG-SMC. Elle confirme largement son niveau au-dessus de 40 millions de dollars de chiffre d'affaires pour l'exercice 2018. Et nous avons payé pour cette acquisition 50 millions de dollars tout rond. Nous avons pour le T4, malgré la rentabilité de la structure, aucune rentabilité à attendre de iVol sur l'exercice 2018, puisque nous passons tous les coûts d'acquisition en charge, je vous rappelle. Par contre, sur l'exercice 2019, il faut attendre un chiffre d'affaires en progression et une bonne rentabilité de cette activité. Voilà pour les commentaires concernant ces questions, Christophe. J'espère que j'ai répondu à vos attentes.
Oui, merci beaucoup.
Une autre question ?
Alors, la prochaine question, pardon, vient d'Agnès Blasi de CMCIC. Madame, c'est à vous.
Merci. Bonjour, Emmanuel. Je voulais juste que vous redisiez ce que vous avez dit dans votre exposé sur la marge au global, parce que là, vous avez donné, du coup, une réponse sur la partie auto, mais au global, est-ce que vous avez donné un élément que je n'ai pas entendu. Et la deuxième chose, sur l'auto, du coup, est-ce que vous allez être amené à fermer des suites et est-ce que vous allez compter divers frais de restructuration? Est-ce que c'est ce qu'on peut comprendre de ce que vous dites?
Alors, tout de suite, pour clarifier sur la partie auto, non, il n'y a pas de fermeture de site, non, il n'y a pas de PSE, non, il n'y a pas de plan social, ce sont des ajustements qui sont permis par la flexibilité maintenue sur les sites. C'est heures supplémentaires, les contrats courts avec les principalement chez nous les salariés intérimaires. C'est tout. Il n'y a pas d'autres points. Je suis okay. Très clair là-dessus. Quand on parle d'ajustement, il s'agit d'ajustement conjoncturel, hein. C'est pas d'ajustement structurel. Et s'il y avait des décisions de plan, bien entendu. On les annonce, et on les annonce dans le bon ordre. Je vais essayer de redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a deux idées essentielles que vous devez retenir. D'abord, la hausse des amortissements qui est significative entre l'EBITDA et l'EBIT. Et la deuxième chose, c'est la volatilité chez les clients, les à-coups de conjoncture qui nous coûtent cher. Et autant on arrive à bien régler une activité lorsque on a une bonne stabilité du chiffre d'affaires et travailler la productivité, travailler les gains et travailler également les temps de cycle, donc les stocks. Autant lorsqu'il y a des à-coups importants. Les à-coups importants, c'est quoi? C'est le coup de frein dans la partie auto qu'on a pris de plein fouet sur le T3. C'est l'accélération des livraisons dans la partie structurelle. Sur les ça qui sont gérés, hein, anticipés, mais qui nous ont coûté cher en termes parce qu'on monte des business entiers à partir de zéro. Ce qui nous a coûté très cher, c'est le coup de frein chez Airbus avec la demande Fasteners Europe là qui a chuté très fortement, que vous connaissez parfaitement, qu'on a déjà annoncé depuis très longtemps, qui maintenant atteint un certain niveau. Hein, donc voilà ces éléments d'à-coup. Ce qui nous a coûté cher aussi dans le médical, c'est l'arrêt brutal de certains produits et puis le décalage avec la montée des produits à venir. Donc tout ça, ce sont des éléments qui viennent affecter la vie tranquille de l'industriel province, mais qui doivent être gérés, anticipés. Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un contexte où les vents contraires qui sont générés par cette volatilité, ils ont été particulièrement forts sur la période. Voilà. Est-ce qu'on a bien géré? Je pense que oui. Est-ce qu'on continue à progresser? Je pense que oui. Est-ce qu'on continue à investir dans ces projets structurants? Je vous réponds également par l'affirmative. C'est ce qu'il faut retenir.
D'accord.
La prochaine question vient de Laurent Gelebert d'Exane BNP Paribas. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir Manuel. Trois questions. La première, c'est pour revenir sur la guidance globale, parce qu'il y a quand même un changement de wording entre le premier semestre et ce que vous publiez aujourd'hui. Est-ce qu'il faut comprendre que la marge pourrait baisser de plus de 200 bips, la marge des bips? La deuxième question, c'est sur la partie auto. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre exposition à la Chine? Et la troisième question, c'est sur Airbus. Donc, est-ce que vous pensez qu'on est vraiment un trough de chez trough? Ou est-ce qu'il y a encore vraiment très peu de visibilité pour les trimestres à venir?
Alors, il n'y a pas de changement de guidance, qu'on soit bien clair. Là, vous avez bien noté qu'on baisse moins en termes d'activité. Il y a un rebond que nous avons aujourd'hui une amplitude de baisse qui était surtout sensible sur le premier semestre et qui sera beaucoup moins sensible sur le deuxième semestre. On est clair là-dessus. D'accord. Ensuite, sur le tassement de la marge, vous avez tous émis un certain nombre d'hypothèses. C'était avant le coup de frein dans la partie auto. On est d'accord aussi. Mais il n'y a pas de changement de wording, à mon sens, sur la guidance telle qu'elle est exprimée dans nos différents communiqués. Là-dessus, on est tout à fait clair, hein, de même qu'il n'y a pas de plan de restructuration, il n'y a pas de plan de fermeture, etc.
Et ça veut dire donc, quoi, Emmanuel donc, ça veut dire que la marge, elle a baissé de quoi de 100 bips, moins de 200 bips, hein?
Ça veut dire que le consensus qui s'est recalé dans le contexte précédent, il doit tenir compte du coup de frein de l'auto sur le T3. C'est ce que ça veut dire. L'expo sur la Chine. Alors, le chiffre d'affaires fait en Chine pour les Chinois, il faut compter à peu près 50 millions d'euros. Là-dessus, on a un nombre de produits qui proviennent de l'Europe et qui sont réexportés en Chine pour un complément de l'ordre d'une vingtaine de millions d'euros à peu près. Voilà, c'est ça l'exposition Chine. Et après, il y a des expositions indirectes via des équipementiers qu'on mesure mal, qui viennent peut-être se rajouter. Bon, il n'empêche que c'est quand même le troisième marché mondial, que en termes de pays indépendants, c'est le premier pays maintenant en termes de production et de vente au niveau mondial, et que ça donne un petit peu le ton de la conjoncture globale. Donc c'est pour ça que le sujet chinois est significatif. Par ailleurs, on voit qu'en Chine, on a beaucoup plus de difficultés à faire passer, par exemple, les hausses matières, qu'il y a une concurrence quand même qui est assez significative. Et donc, nous avons, nous, deux unités installées là-bas qui sont rentables, qui fonctionnent correctement, qui sont prévues de monter en puissance avec des nouveaux produits très intéressants. Donc, on conserve nos ambitions sur la Chine. Voilà, il y a un moment donné où les arbres ne vont pas jusqu'au ciel et donc on pouvait s'attendre à un petit coup de frein sur le marché. Votre troisième question qui concerne Airbus. Est-ce qu'on y voit clair chez Airbus? On va dire plus on avance, plus on pense que Airbus va recommencer à commander dans la partie fixation un niveau plus normal. Qu'une fois que les stocks seront bien dégonflés. Il y a une partie dont on sait qu'elle ne reviendra pas. Il y a une partie qui concernait les gros porteurs qui, elles, vont être affectées jusqu'à ce que le 330 reprenne un petit peu ses cadences. Sur le 380, par contre, on n'attend rien. Et ensuite, il y a les demandes ponctuelles des différentes NATCOs, donc les différentes organisations nationales. Je vous rappelle qu'on livre à la fois l'Allemagne, très fortement l'Angleterre, sur les ailes, l'Espagne, et bien entendu la France, très fortement. on a des mouvements erratiques suivant les pays, ce qui n'est pas complètement normal, vous êtes d'accord avec moi. Par exemple, aujourd'hui, je peux vous dire qu'en Angleterre, pour monter les ailes principalement du 320, on est en fort ralentissement. Encore. Alors, effectivement, l'usine de rugby a été touchée plus tard que l'usine de Saint-Ouen qui fournit surtout la France et l'Allemagne. Mais il n'y a aucune raison qu'il y ait des mouvements comme ça un peu erratiques entre les nations. Et c'est ce qu'on constate. Donc ça veut dire que, globalement, le sujet Airbus, il n'est pas encore complètement résolu. Mais globalement, le message sur Fasteners Europe, c'est qu'on a touché le point bas.
D'accord. Merci.
Nous n'avons pas d'autres questions, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, veuillez composer 01 sur votre clavier téléphonique. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez composer 0 et 1 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une nouvelle question de Christophe Ménard de Kepler Chevreux. Monsieur, c'est à vous.
Oui, j'avais juste une question complémentaire sur les volumes US et la reprise. Vous avez mentionné au niveau des distributeurs. Justement, en quoi l'acquisition de KLX par Boeing change la donne, ou en tout cas, qu'est-ce que vous voyez à ce stade-là comme conséquence? Et sur les deux marchés dont vous avez mentionné, les business jets et les hélicoptères, ce sont des frémissements, ou est-ce que vous avez de la visibilité sur les reprises de volume? Et toujours sur la thématique US, chez Boeing, sur quel ordre de grandeur sommes-nous en termes de croissance? Vous l'avez peut-être mentionné, mais je ne l'ai pas noté.
Oui, alors la croissance US sur le trimestre est plus 7% en organique, hein, aurait fait entendu devise. Et c'est plus 7%, c'est sur tous les segments. C'est plutôt bon. Et nous avons deux sites qui fonctionnent très bien. Le Canada, là, qui développe beaucoup de nouveaux produits et qui est encore en cours de développement. On a beaucoup de produits pour le triple 7X qui sont en cours de développement, y compris de l'Optopline. Hein. Donc, c'est un point très positif et qui va bénéficier également aux usines européennes. Nous avons également des sleeves de gros diamètre pour le Canada. Et des produits de spécialité pour l'usine de City of Phoenix. Donc des produits qui sont avec beaucoup de valeur ajoutée. Concernant les distributeurs, aujourd'hui, KLX est encore en cours de prise en main, on va dire. Donc ce n'est pas KLX qui tire le marché, ce sont les autres distributeurs. On a également une activité correcte avec Spirit. Voilà, donc c'est bien une reprise hors Boeing, et donc Boeing, notamment sur la principale usine de Torrance, devrait apporter un certain soutien dans le futur. Nous avons beaucoup de nouveaux produits en développement, hein, sur les États-Unis globalement, et donc a priori, on s'attend à que ça soit un élément de soutien pour l'avenir. Concernant la politique de Boeing qui a repris KLX, je ne m'exprimerai pas sur le sujet, je pourrais faire un parallèle avec la reprise de Satair par Airbus. Il est évident que les OEM veulent se positionner sur la partie MRO. C'est une activité qui est rentable, intéressante. Pour nous, qu'on livre KLX de participation d'un private equity ou KLX participation de Boeing, ça ne change pas grand-chose. Hein, de même, on l'a vu avec Satair, Satair dans Airbus ne change pas beaucoup en termes d'activité par rapport à sa situation, parce qu'ils étaient indépendants, en tout cas pour ce qui nous concerne. Donc, ça devrait être neutre pour nous. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, Christophe, à votre point.
Si, tout à fait. Et si je peux me permettre, je voulais aussi rebondir sur votre remarque sur les fixations pour les ailes, notamment d'Airbus A320 en Angleterre. Ce que vous dites, en fait, s'il y a une baisse marquée des volumes, ça va un peu à l'encontre de ce que l'on peut lire dans la presse, où on entend dire que certains commencent à créer des buffers de stock en vue du Brexit. Donc, est-ce que c'est un effet qui pourrait vous aider en début d'année sur les volumes anglais, parce que c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce que l'on pourrait penser des messages d'Airbus à ce stade sur la croissance des volumes à 320. Si vous avez, oui. En fait, est-ce qu'il y a un effet positif?
Oui, parce qu'en fait. Sur les ailes, là, on est en organisation en flux tendu, hein, puisque nous avons une organisation à remplir des bacs, et c'est nous qui gérons les stocks pour le compte d'Airbus. Donc on voit directement ce qui est consommé. Effectivement, on a eu une prévision de commande Brexit de la part d'Airbus, mais qui est d'ampleur limitée. Pour ce qui nous concerne, pour nos produits, par contre, s'ils se mettent à constituer d'autres stocks, on devrait voir la déconsommation. Mais là, en tous les cas, à très court terme, on a un ralentissement de la consommation des fixations sur les ailes. Parce que je pense qu'ils ont fabriqué trop d'ailes en avance, ou ils ont un problème d'ajustement de la correspondance entre le nombre d'ailes et le nombre de fuselages. Je suppose que c'est ça. Voilà. Mais effectivement, sur le fond, c'est totalement contre-intuitif, puisque les cadences à 320 néo continuent à monter.
D'accord. Merci beaucoup.
Nous n'avons pas d'autres questions, mesdames et messieurs. Si vous souhaitez poser une question, veuillez composer 01 sur votre clavier téléphonique. Bon, monsieur Vielard, nous n'avons pas d'autres questions.
Écoutez, merci beaucoup. Il nous reste à conclure cette réunion. Je vous remercie pour votre attention, vos questions toujours très intéressantes. J'espère que j'ai été clair dans les réponses. En tout cas, je vous donne maintenant rendez-vous pour la publication de nos résultats annuels qui seront courant février et de mémoire aux alentours du 24, quelque chose comme ça, février. Je vais vous donner la date. Excusez-moi, je mets un tout petit peu de temps, je devrais la connaître par cœur. Mais... ça devrait être le 21 pour la réunion et les comptes seront annoncés le 20 au soir. Voilà. Dans cette attente, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.
Mesdames et messieurs, la conférence est désormais terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez dès à présent vous déconnecter.